Ton nom, Jésus, amen.
Merci Luc. Bonjour à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Guillaume Ollier. Je suis rattaché à l'église de La Source sur Montpellier et je fais partie du petit groupe de Gignac. Voilà. Vous avez les salutations de l'église de Montpellier, de notre petit groupe de Gignac aussi, avec un grand merci pour le soutien que vous nous apportez régulièrement aussi. C'est vraiment précieux pour nous, donc un grand merci. Donc ce matin, vous remarquerez que je suis venu tout seul, il n'y a pas la petite famille, il y a eu quelques péripéties pendant la nuit, rien de grave, mais bon, du coup, voilà, la petite famille est restée à la maison. Voilà. Et en tout cas, alors moi, c'est un privilège que de pouvoir être ici. Merci pour la confiance que vous m'accordez de venir prêcher ce matin. J'ai préparé quelque chose et puis maintenant, je vais dérouler. On va s'attendre à ce que le Saint-Esprit parle au travers de ce que j'ai préparé, au travers surtout de sa parole. Ce matin, je vais parler miséricorde et justice de Dieu, le paradis et la croix, le jugement dernier et l'enfer. Alors ne partez pas tout de suite. Mais il y a un vrai enjeu là-dessus. Voilà. Est-ce que tu peux passer juste la diapo d'après, s'il te plaît? Voilà, merci. Alors je vais démarrer par une petite introduction. Moi, c'est une petite réflexion que je me fais. Je ne sais pas si je suis le seul à me faire cette réflexion. Mais je me suis souvent posé la question, à savoir pourquoi dans toutes les histoires incroyables, est-ce qu'il est nécessaire d'y avoir un grand méchant? Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir des situations désespérées à chaque fois avec des intrigues palpitantes? Pourquoi il doit forcément y avoir un méchant, que ce soit compliqué? Et je pense qu'au regard de la Bible, on peut dire que Jésus, il aimait beaucoup les histoires. Il en a raconté quand même pas mal. Et ça devait être passionnant de l'écouter, d'être à côté de lui, d'être dans la foule de ceux qui se rapprochaient de lui, en disant, ouais, je vais écouter l'histoire de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et la Bible, elle nous dit que Dieu, il est l'auteur de notre histoire. Et c'est un écrivain incroyable, hein, quand même. Peut-être si tu veux passer l'autre diapo. J'ai fait des petits diapos parce qu'on m'a dit que vous aimez bien les diapos ici, que ça fixe pendant le message aussi pour accrocher, etc. Donc j'espère que ça va vous aider aussi à illustrer un petit peu mes propos pour mieux comprendre. Bon, on remerciera ChatGPT aussi qui fait quand même du très bon travail. Sauf que cette histoire, il s'agit de notre histoire, en fait, de nos vies, en tant qu'individus, mais aussi avant de parler d'individus, en tant que peuple. Dieu, il est au contrôle de toutes choses, il est infiniment sage. Mais alors pourquoi cet écrivain, il a intégré un grand méchant dans son plan, dans sa propre histoire? On a un Dieu incroyable, alors pourquoi il n'aurait pas pu faire un scénario sans méchant? On peut se poser la question. Ça pose la question aussi de pourquoi le mal, pourquoi la souffrance? Dieu, il peut être amour, peut-il être amour et permettre tout cela? Dieu est-il vraiment en maîtrise de toute notre histoire, avec tout le bazar qu'on voit autour de nous? Est-ce qu'il n'y a pas été un petit peu fort avec l'intégration du jugement dernier et de l'enfer? On pourrait se poser la question. Alors ce matin, on va parler de la miséricorde et de la justice, et la croix, le paradis, l'enfer. Dans ce message, ça peut paraître un peu lourd, mais c'est un message d'espoir. C'est un message qui est tellement important de comprendre ce qui se passe. Et plus on comprend ce qui se passe, plus on va regarder à Jésus, on va se dire waouh. Et c'est un encouragement à rester fidèle à toute la Bible, à se remémorer que notre espérance glorieuse est glorieuse, mais il faut aussi accepter de se soumettre à une rude vérité du châtiment de ceux qui ne seront pas jugés au regard du sacrifice de Jésus. Donc là, on va parler le commencement. On va poser le cadre de l'histoire. Si on peut passer à la diapo d'après, s'il te plaît. Je vais mettre un peu sur le côté, comme ça je vois en même temps les diapos. Donc là, je vais poser le cadre au début. Alors, on a un Dieu qui est amour. Au commencement, Dieu il est amour. On voit dans Genèse 2, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, et il vit que tout cela était bon. Donc Dieu il est créateur de toutes choses. Au commencement de l'histoire, et ce n'est pas un conte de fées, c'est notre histoire, eh ben, il crée toutes choses bonnes, magnifiques, incroyables. Comme un coucher de soleil, agréable comme la sensation de l'air frais dans les cheveux. Pour bon, moi, un peu moins, mais ça reste malgré tout agréable. Le fait de la sensation du miel dans le palais, les battements du cœur, la respiration qui se fait sans réfléchir. Le fait que les étoiles, elles tiennent toutes seules en équilibre et nos planètes aussi, elles tournent, c'est des choses au niveau de la science, au niveau de la physique qui sont incroyables. Et Dieu, il a dit que tout ça, toutes ces choses étaient bonnes. Et au commencement, il nous a placés tout proche de lui, dans un cadre qui était idyllique, le jardin d'Éden. Et à son contact pour avoir un lien particulier avec nous. C'est pas juste qu'il a créé un truc magnifique, allez, amusez-vous dans le jardin, moi je vais à côté, je vais faire autre chose. Non, non. On voit dans Genèse 3, il dit, le soir, un vent léger se met à souffler, le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. Le Seigneur Dieu appelle l'homme, il lui demande, où es-tu ? Dieu, c'est un Dieu de relation. Il nous a créés pour être avec lui. Il veut qu'on soit avec lui, on est ses enfants et on est la prunelle de ses yeux. Et c'est là son amour pour nous. C'est qu'il a créé toute chose bonne et on voit à quel point il nous aime dès le commencement. Dieu est un Dieu d'amour, il pose le cadre avec cet amour-là. Et on peut être certain, peut-être certains ont besoin de découvrir, de se rappeler, est-ce que cela, de se rappeler de cela avec une profondeur et une fraîcheur toute nouvelle. Alors là, on peut demander au Saint-Esprit de nous rappeler, révèle-moi l'amour de Dieu. J'en ai entendu parler, je l'ai vécu quelques fois, peut-être ça fait un moment que c'est un peu du congelé, réchauffé. Viens me renouveler. Et ça, on a besoin du Saint-Esprit pour ça toute sa vie. Et à chaque fois, on apprend plus et il y a des nouveautés. C'est ça qui est incroyable. Donc là, on a un Dieu qui est amour. Je passe assez rapidement pour passer sur la suite. Là, ensuite, deuxième point, Dieu, on a un Dieu qui est saint. Dieu, il est saint. Donc Dieu, il vient délivrer Israël d'Égypte et conclut une alliance avec son peuple et il donne des lois pour qu'ils vivent différemment des nations païennes. Parce que Dieu est saint. Dans Lévitique 19:2, il dit « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. » Et la sainteté, ce n'est pas une règle arbitraire. Elle découle du caractère même de Dieu. Dieu appelle son peuple à refléter sa sainteté. Rien que ça. Pas de pression. Dieu, il est parfaitement juste. Et Moïse, il chante la fidélité de Dieu avant sa mort. Dans Deutéronome 32, il dit « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » Et parce que Dieu est parfaitement juste, il ne peut pas tolérer le péché. Il ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Ce n'est pas possible. Donc il y a eu la chute entre-temps, et là on parle du péché. Et le prophète Ésaïe, il reçoit une vision du trône, et il dit dans Ésaïe 6, verset 1 à 5, « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » On a un Dieu qui est saint et qui est rempli de gloire. Et c'est répété dans Apocalypse 4, « Les quatre êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient, qui était, qui est et qui vient. » On a déjà une bonne notion de l'histoire de ce qui va se passer. Et c'est là sa sainteté, son éclat sans pareil, sans tache, si bien que la terre est remplie de sa gloire jour et nuit. Et puis, on a déjà commencé à en parler, le problème arrive, le péché. Et c'est là que ça se complique. Dans Ésaïe 6, on nous dit « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Et face à la sainteté de Dieu, Ésaïe prend immédiatement conscience de son propre péché. Plus on voit Dieu tel qu'il est, plus on mesure notre besoin de sa grâce. Et quelque part, je pense qu'ici, dans cette église, si je ne me trompe pas, je pense que vous avez une bonne notion de la grâce. Et ce que j'ai reçu quelque part un petit peu ce matin en apportant ce sujet, j'étais un peu perplexe quand même quand j'ai choisi le sujet, mais je me suis dit, vous avez une bonne notion de la grâce, je pense, et quelque part, quand on va regarder de quoi est-ce que Dieu nous a sauvés, ça peut permettre de passer encore un palier, de dire, mais la grâce, elle est vraiment tellement plus grande que ce que j'avais pu percevoir jusque-là. Donc c'est vraiment, j'essaye de vous remettre ce que le Saint-Esprit m'a mis pour grandir dans cette notion de la grâce. Nul autre que la sainteté ne peut survivre en sa présence. Et avant de poursuivre, je voulais soumettre une réflexion. Il a dû être tellement difficile à Jésus, quand il était sur terre, de côtoyer le péché. Lui qui était assis à la droite de Dieu, il est descendu sur terre en tant qu'homme. Il a vécu au milieu des gens qui étaient dans le péché. Ça a dû être tellement dur. Et maintenant, essayez d'imaginer la douleur du Saint-Esprit qui vit en nous aujourd'hui de devoir subir notre péché depuis l'intérieur. Essayez d'imaginer quelques secondes. Voilà, c'est un peu lourd. Après, il y a de l'espoir derrière, je vous rassure. Mais malgré tout, c'est important d'avoir cette notion-là. On a un Dieu qui est saint. Soyons saints, soyons intraitables avec le péché. Changeons de comportement avec l'aide du Saint-Esprit et avec les autres aussi. Donc là, on voit toute la tension qu'il y a dans la Bible. Dieu aime l'homme, mais Dieu est saint. Comment peut-il accueillir le pécheur sans renoncer à sa justice? Et toute la suite de la Bible répond à cette question. Là, on va passer au point suivant, le sommet de l'histoire. Donc là, on voit que sur ce point-là, je vais être un peu rapide, mais gardez en tête que c'est le sommet, vraiment le sommet, le point culminant de l'histoire. Et après, en filigrane, ça va être tout le long sur la suite. Notre problème, c'est que nous sommes tous coupables, et pas seulement les grands méchants. On est tous coupables du péché. Et Dieu, il ne peut pas ignorer le péché parce qu'il est juste. Il ne peut pas faire semblant. Ce n'est pas possible. Dans sa nature, il est saint, il ne peut pas tolérer le péché. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'impensable. La justice tombe. Parce qu'il est juste, la justice, elle tombe et il corrige le péché. Mais elle tombe sur qui? Sur Jésus, pas sur nous. C'est pas incroyable, ça? C'est pas incroyable? Et c'est le sommet de l'histoire. C'est Jésus qui vient porter notre péché à notre place. Et à la croix, Dieu, il abandonne ni sa justice, ni son amour. Là où le péché et la condamnation étaient une fatalité qui menait à la destruction pour tous, Dieu, dans son immense miséricorde, a bouleversé l'équation en permettant une autre voie. Ce qui permet à la fois la pleine expression de sa justice par la condamnation totale du mal, et la manifestation entière de son amour et sa miséricorde par le sacrifice de Jésus et la grâce accordée à ceux qui le suivent. La croix est le lieu où la justice et l'amour se rencontrent. Et Dieu n'a jamais voulu que le mal soit le héros de son histoire. Le héros, ça a toujours été Jésus. Et j'aimerais aussi aborder un petit point très rapide, c'est quand on s'approche de la grâce de Dieu, peut-être pas chez vous, mais des fois on peut avoir tendance à dire on s'approche de la grâce de Dieu, La grâce de Dieu, ça devient un peu un concept. Ça devient, je sais pas, un objet ou quelque chose qu'on va venir attraper. Mais n'oublions pas que la grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même. La grâce de Dieu, on s'approche d'une personne, on s'approche de notre Papa céleste, on s'approche vraiment d'une personne avec qui on va partager, qui va nous combler de sa grâce. On ne vient pas chercher un concept, on vient chercher une personne, et c'est lui qui vient nous chercher. Mais l'histoire n'est pas terminée. Jésus, il est venu une première fois pour sauver, pour porter la sentence du jugement à notre place, mais il va revenir une deuxième fois pour prononcer le jugement. Palpitant comme histoire quand même. La promesse tant attendue, la venue de Jésus. Son amour le presse à la grâce, parce qu'il est amour. Il a envie de donner sa grâce. Il nous ouvre les portes du paradis dans sa présence glorieuse par le sacrifice de Jésus. Mais sa sainteté, elle l'oblige à la justice. Elle vient poser un juste jugement sur toute chose en condamnant les coupables à l'enfer. Bon, pour les fans du Seigneur des Anneaux, j'ai une petite analogie avec ses limites quand même. La croix, c'est un peu la bataille de Minas Tirith. Pour ceux qui ont vu avec la chute de la tour du Gondor, et la destruction de l'anneau. Le retour de Jésus et le jugement dernier, c'est Aragorn qui est couronné roi. Et tout le royaume est restauré derrière. Un petit peu pour illustrer. Alors ce matin, j'aimerais poser une question. Pourquoi parler de l'enfer? On est dans une église, il est bizarre, lui, il parle de l'enfer. Bon, normalement, on parle un petit peu d'autre chose dans une église, hein, quand même. Un des premiers points, c'est parce qu'on suit l'exemple de Jésus. Ses habitudes, ces sujets de conversation, son cœur, et on découvre en fait, quand on lit la Bible, que Jésus, c'est celui qui parle le plus de l'enfer. L'objectif aussi, c'est de rétablir la compréhension du positionnement de l'enfer. Et pourquoi c'est important pour notre propre compréhension du salut, du péché, mais aussi du salut pour les perdus. Et on voit aussi que la condamnation, elle est toujours enseignée avec un chemin de rédemption et de grâce. C'est jamais juste la condamnation. Il y a toujours un chemin vers le salut qui mène vers Dieu grâce à Jésus. C'est pour ça que j'ai commencé par parler de Jésus d'abord et je vais continuer à en parler. Alors nous, je nous pose une question, et à moi le premier, est-ce qu'on en parle de l'enfer? Pour être honnête, moi perso, pas trop. J'avoue, pas tant que ça, hein. Alors pourquoi on pourrait dire, peut-être qu'on peut avoir honte. On aimerait pouvoir mettre le sujet de côté. Ce serait plus simple, hein. C'est un peu gênant comme sujet. Le mot est faible, hein. Mais par contre, l'enfer, ben, ce n'est pas le point faible du christianisme. Pas du tout. C'est comme si la foi chrétienne, c'était plus facile à accepter sans qu'il y ait l'enfer. Pas du tout, ce n'est pas du tout un point faible. La Bible en parle clairement. Et on ne peut pas rester silencieux sur le sujet. Peut-être qu'on a peur. On pourrait parler de l'enfer pour manipuler les gens, leur faire peur, et les amener à agir comme nous, on voudrait qu'ils agissent. Et ça a été le cas dans certaines périodes de l'histoire où l'Église a fonctionné comme ça, et c'était une mauvaise chose. On pourrait en parler aussi sans la grâce, en donnant la description qu'en fait la Bible, mais sans parler de la compassion et sans prêcher la grâce. C'est tout aussi mauvais que de ne pas parler de l'enfer, car la Bible ne parle jamais de la condamnation sans le moyen d'échapper à cette condamnation. On veut plutôt parler de la Bible parce que la Bible en parle, non comme un point faible dans lequel on aurait honte, mais plutôt comme une vérité essentielle, qui met en avant la grandeur de Dieu, la gravité du péché et la merveille de la grâce. Jésus est celui qui parle le plus de l'enfer, mais il est aussi celui qui révèle le plus l'amour du Père. C'est étonnant cette balance. J'avais mis au début une balance, cet équilibre-là. C'est étonnant, hein? Et cette réalité peut sembler paradoxale, mais ça ne l'est pas. Plus on comprend la sainteté de Dieu, plus on comprend la profondeur de sa grâce. Plus on réalise ce dont Dieu nous a sauvés, plus notre joie devient grande. Et on comprend rarement la grandeur d'un sauvetage tant qu'on n'a pas réalisé le danger qu'il y avait. Si on minimise le péché, on va minimiser la croix. Si on supprime l'enfer, on diminue la grandeur du salut. Alors c'est un encouragement pour moi aussi. N'ayons pas peur de parler du jugement dernier car il est une victoire sur le mal. La démonstration d'une justice tant attendue, rendue par notre Dieu, et une miséricorde qui nous permet d'échapper à sa juste colère divine sur nos vies. Partageons cette bonne nouvelle sans rien enlever à la gravité du message, mais en le comprenant mieux et plus profondément. Et la grâce n'est extraordinaire que parce que notre situation était complètement désespérée. Alors l'enfer, maintenant, l'enfer c'est quoi? Alors il y a un mythe qui circule dans le monde, peut-être pas forcément chez les chrétiens, mais comme quoi l'enfer c'est un peu une boîte de nuit où Satan fait la fête, voilà, et où c'est lui qui est aux commandes de toutes choses. Mais la Bible, elle met plutôt en avant la défaite de Satan, qui est l'ennemi de Dieu et qui a été vaincu à la croix. Satan lui-même sera jugé dans l'étang de feu, c'est-à-dire l'enfer. Il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. On est bien loin du mythe où c'est Satan qui dirige l'enfer. Donc ça, c'était très rapide, mais c'était pour contrer ce mythe, peut-être que certains ont pu entendre. Selon la Bible, l'enfer est un lieu de châtiment éternel et conscient où Dieu manifeste sa colère contre le mal. Alors là, c'est la partie pas très sympa, mais qu'est-ce que l'enfer? Ben, il s'agit d'une fournaise de feu. Il y aura des pleurs, des grincements de dents. Il est question de ténèbres du dehors, du feu éternel préparé pour le diable et ses anges, d'un juste châtiment, une ruine éternelle. Un feu qui s'éteint pas, un ver qui ronge le corps sans fin. Dans Apocalypse 14, on parle de le fait de boire du vin de la fureur de Dieu. Alors moi, je ne veux pas être là ce jour-là. Pour ceux qui s'y trouvent, il est dit que la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et n'ont pas de repos ni jour ni nuit. C'est lourd, hein? C'est lourd. Je suis désolé ce matin, mais c'est vraiment parce que la Bible en parle que j'en parle ce matin. Le feu, les ténèbres, les vers, tout ça, est-ce que c'est des symboles, des images? Je ne sais pas, mais bien souvent, ben, les symboles, eh ben, ils ont une force, la réalité est bien souvent plus grande que le symbole. Donc là, c'est voilà, qu'est-ce que l'enfer? Maintenant, l'enfer, qui va en enfer? On a décrit un petit peu ce que c'était l'enfer, qui va en enfer? Les gens ont tendance à croire que le ciel est réservé. Alors, pardon, c'est une citation de Dan Ortlund, que je ne connaissais pas, mais j'ai trouvé la citation intéressante. Les gens ont tendance à croire que le ciel est réservé aux bons et l'enfer aux méchants. Selon cette conception, le ciel appartient à ceux qui créent des associations caritatives, nourrissent les pauvres, payent leurs impôts et s'arrêtent au feu rouge. Suivant cette même logique, l'enfer appartient aux détenus, aux violeurs, aux trafiquants de drogue et aux proxénètes. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce que la Bible enseigne, c'est qu'en fait, on se dirige tous vers l'enfer par nature. C'est ce que dit la Bible. On mérite tous le châtiment éternel à cause de notre péché. On mérite tous le châtiment éternel avec ce que j'ai décrit juste avant. On le mérite. C'est totalement juste et mérité. Ce qu'il y a, c'est que le problème de notre péché, c'est qu'il faut qu'il soit réglé. Et pour ça, ben, on mérite un jugement. Ce que la Bible enseigne, c'est que le paradis est pour ceux qui se repentent de leur péché, alors que l'enfer est pour ceux qui refusent de le faire. Croire en Jésus, fils de Dieu, c'est échapper à la colère de Dieu, parce que Jésus a subi cette colère à notre place. Le châtiment éternel concerne tous ceux qui refusent ce message et qui restent attachés à leur propre condamnation. Il concerne tous ceux qui refusent le médicament que Dieu donne en la personne de Jésus, la bouée de sauvetage que Dieu offre. Donc voilà pour qui est l'enfer. Autre point, l'enfer est éternel. Les moments qu'on vit ici sur Terre, ils auront une fin. Par contre, l'enfer n'a pas de fin. Il s'agit d'un châtiment éternel. Jésus parle de certains qui auront un châtiment éternel, alors que les justes iront à la vie éternelle. Ouf, enfin une bonne nouvelle. Et Jésus, il met les deux destinées au même niveau dans le sens où les deux sont éternels et sans fin. On voit cela dans plusieurs passages quand il est question de feu qui s'éteint pas ou d'un tourment au siècle des siècles. Je vais parler d'un autre mythe, le purgatoire. Dans nos milieux, normalement, on est un peu moins concerné, mais malgré tout, ça me paraissait important d'en parler rapidement. C'est comme si on aurait une deuxième chance après notre mort, comme si on avait une deuxième chance après notre mort. On s'ouvrirait un peu, puis une fois que c'est terminé, ben on va au paradis. C'est bon, on a payé la facture, ça suffit. Il n'y a aucun verset qui parle de ça dans la Bible. Aucun. La Bible, elle est claire. Il y a deux destinées. La destinée, elles sont définitives et éternelles. Et c'est ça qui rend le sujet si sérieux. Il y a une autre citation de Wayne Grudem qui dit: la raison pour laquelle il nous est difficile de penser à l'enfer est que Dieu a mis dans nos cœurs une part de son amour pour les hommes et même les pécheurs. Nous devons toutefois avoir conscience que tout ce que Dieu a ordonné est juste. C'est dur, hein, de dire que Dieu va envoyer des gens en enfer, en plus qu'on était les premiers concernés. Mais là, on doit se soumettre à ce que la Bible dit, se soumettre à cette autorité-là. Dieu, il est largement au-dessus de nous et il est sage, juste et glorieux. Dans Ézéchiel 33, verset 11, c'est dit: aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, l'Éternel, le déclare, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant, mais je désire qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive. Dieu ne prend pas plaisir à condamner le méchant. Dans sa nature, il est bon, il est amour. Et il dit qu'il est lent à la colère et riche en bonté. C'est dit que Dieu, il a plaisir, il a des richesses à donner son amour, mais il faut l'exciter à la colère, il faut venir le chercher pour qu'il s'énerve. Mais là, il a pas le choix, il est juste, il doit condamner le péché, mais il a donné une solution. Et avant de poursuivre, je voudrais soumettre une réflexion. Il est tellement facile de perdre notre point de vue, notre destinée, qui devait être la note sans Dieu et de celles qui ne suivent pas Dieu. On est pris dans le quotidien, dans nos plannings, dans nos réflexions, dans des choses qui peuvent être très bien, mais ça peut être très, très facile d'oublier ça. Est-ce qu'en plus de la grâce et l'amour de Dieu, je parle aussi de l'enfer et la condamnation, ou bien est-ce que je laisse cette notion de côté? Et là, je le redis, je ne suis pas dans la culpabilité, je ne mets pas un poids, etc. C'est vraiment un encouragement à regarder qu'est-ce que Jésus a fait dans sa vie et est-ce que nous, on est dans la même lignée de ça. Je ne veux surtout pas mettre de la culpabilité. Autre question, pourquoi l'enfer existe? Si Dieu il est amour, pourquoi l'enfer? Bon, on pourrait poser la question autrement. Comment un Dieu parfaitement juste pourrait-il ignorer le mal? Si Dieu ne jugeait jamais les meurtriers, les oppresseurs, les violeurs, les tyrans, les injustices seraient-elles encore justes? L'amour sans justice devient la complaisance. La justice sans amour devient la cruauté. Bon, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec la justice sans amour devient la cruauté, mais c'est le fait que la justice sans amour, y a une absence de grâce complète. En Dieu, les deux sont parfaitement réunis. À la croix, Dieu ne ferme pas les yeux sur le péché. Il le juge. Il le juge sévèrement. Mais il choisit de porter lui-même ce jugement en Jésus pour que tous ceux qui croient aient la vie éternelle et qu'il y ait la restauration de cette relation au début dans notre histoire qui était prévue. Lorsqu'on est confronté à l'horreur de l'enfer, on a tendance à penser que ça contredit l'amour de Dieu. Alors si Dieu est amour, pourquoi l'enfer? Bon, une telle question mériterait un développement un peu plus long, mais j'ai deux réflexions à soumettre. En raison de la justice de Dieu, le premier. Lorsque Dieu est juge, il ne fait pas preuve d'un manque d'amour, mais de justice. On veut tous qu'il y ait un enfer pour les grands criminels, tous ceux qui ont échappé à la justice humaine. Heureusement qu'il y a un Dieu qui juge. Heureusement. Ce qui nous gêne, par contre, c'est de dire que bah, des gens comme nous, bah, on mérite l'enfer. Alors on dit, ah, lui là-bas, il n'est pas bien, bon, pas trop de soucis. Moi, non, moi, je ne suis pas concerné. Notre problème, ce n'est pas l'existence de l'enfer, mais le fait qu'on mérite d'y aller. Deuxième point, c'est en raison de la gravité du péché. Tant que notre péché ne sera pas pour, il sera pour nous qu'un petit écart de conduite, une imperfection, bah, l'enfer, ça va rester un scandale. Mais lorsqu'on voit que notre péché, tel qu'il est une offense envers le Dieu Tout-Puissant, juste, saint, créateur, le roi de l'univers, alors on comprend que l'enfer, il n'est pas cruel, on comprend qu'il est mérité. Pour comprendre l'enfer, il faut comprendre la gravité de notre péché. Si l'enfer existe, c'est parce que le péché existe. Dominique Angers nous dit « Si nous sommes embarrassés devant la notion biblique de l'enfer, c'est sans doute parce que nous avons tendance à relativiser la gravité du péché. L'enfer est si horrible parce que notre péché est horrible. C'est Dieu qui manifeste sa colère juste et sainte contre le péché. » Dieu est dit dans Jean 3, 36 « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Le péché, c'est quelque chose de très grave. Dieu, il a porté quelque chose, Jésus, il a porté quelque chose de très, très lourd à la croix. Notre péché, mon péché. Et le but, c'est pas de venir ajouter de la culpabilité. Dieu, il est venu l'enlever, cette culpabilité. Je le redis encore, je vais le répéter. Je ne suis pas là pour ça. Et la Bible, elle ne vient pas apporter de la culpabilité. Mais elle vient apporter du poids et de la mesure à nos fautes, à son coup, à l'écart avec la sainteté de Dieu, pour réaliser encore plus profondément sa miséricorde envers nous. Ce que je disais au début, plus on réalise la gravité de notre péché, plus on va voir, waouh, en fait, il m'a pardonné tout ça. Waouh. Nous qui sommes en Christ, nous avons trouvé en lui la seule manière d'échapper au jugement que nous méritons. L'horreur de l'enfer devait nous amener à saisir la merveille de la croix. Dieu aurait été totalement juste de nous envoyer en enfer pour l'éternité. Il n'était pas obligé de nous sauver. Hein. C'est pas obligé. Mais le Dieu que nous avons offensé vient lui-même prendre la punition qu'on méritait afin de nous sauver. Il manifeste ainsi sa justice, son amour dans une parfaite harmonie. C'est la merveille de l'évangile que nous croyons et par lequel on a été sauvés. Gloire à Dieu. Voilà pour l'enfer. Maintenant, on va parler du jugement dernier. On reste dans les thèmes. Voilà, mais il y a de l'espoir. Il y a un espoir magnifique. Tout au long de l'histoire, Dieu il a récompensé les justes en bénissant et en délivrant ceux qui lui étaient fidèles. On voit l'histoire de Noé, d'Abraham, de Joseph, de Moïse, David et bien d'autres encore. Il a aussi exercé son jugement sur ceux qui désobéissaient en persistant dans le péché. Sodome, Gomorrhe, le déluge, les 10 plaies d'Égypte, et j'en passe. À la croix, Dieu il a vaincu la mort et a permis un chemin pour restaurer la relation avec Dieu. Mais l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et à ça, on devrait dire, mais merci. Merci Dieu, parce que tu ne tiens pas le coupable pour innocent. Moi, je ne veux pas d'un Dieu qui ne juge pas. Je ne veux pas d'un Dieu qui laisse innocent la personne qui a fait du mal. Et moi, j'ai fait du mal et ça ne doit pas rester impuni. Ce ne serait pas bon. Et Dieu, il vient satisfaire ça. Mais pas que sa justice, son amour aussi. Dans sa patience divine, il attire à lui ses enfants, il n'en laissera pas un seul de côté. C'est dit dans Pierre 3,9, le Seigneur n'est pas lent à tenir sa promesse, comme certains le prétendent. Au contraire, il est patient envers nous, ne voulant pas que quelqu'un périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu, il veut laisser, il veut sauver les hommes. En fait, s'il est patient, on ne sait pas quand il va revenir. Mais il est patient, il est tellement patient. Moi, je me dis, je ne suis pas Dieu, et heureusement, heureusement pour vous. Mais avec le mal qu'on voit, mais on aurait tellement vite fait de tout envoyer bouler. Dieu, il est tellement patient. Mais il y a un autre jugement qui arrive, et c'est le jugement dernier, définitif, qui sera public. Pas comme le premier, la mort, où c'est dans son coin. Là, ce sera public. Ce sera glorieux, ce sera total, général. Et il y aura des récompenses à la fin. Je vais lire Apocalypse 20. Versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Parce que Dieu est juste, le mal sera jugé. Il sera puni et anéanti pour toujours. Et ça, c'est un message qui est incroyable. Le mal sera anéanti pour toujours. Plus de pleurs, plus de souffrances, plus de maladies, d'injustices, plus de morts. Et alors qu'on aurait dû être intégré à ce jugement de destruction, pardon, Jésus l'a porté pour nous. Il nous prépare une place pour être avec lui pour toujours. Nous verrons cette justice tant attendue, tant désirée. C'est un sujet de réjouissance. C'est notre espérance. Mais c'est aussi à la fois un moment horrible et un moment de soulagement. Horrible pour ceux qui n'ont pas suivi Jésus, et un soulagement immense de l'accomplissement de la justice de Dieu, la victoire définitive du bien sur le mal, la juste punition du péché. C'est pas incroyable ça? Encore un mythe, là je suis peut-être le seul à avoir vécu, mais j'aime bien. Peut-être ça vous est déjà arrivé de vous dire, tiens là je suis dans un moment calme. Nous, à la maison, il y a trois enfants petits, donc ça n'arrive pas souvent, mais des fois, il y a un petit moment calme. Ça fait un petit moment que ça ne m'est pas arrivé, mais il y a quelques années, ça m'est arrivé de dire, tiens, c'est calme, il n'y a personne autour de moi. Est-ce que Jésus n'est pas déjà revenu? Mince, il m'a oublié. Zut, ah, je n'étais pas à la hauteur. En fait, je croyais que j'étais écrit sur le livre, mais non, bah, zut, j'ai raté un truc là. Ça vous est arrivé ou pas déjà? Je suis peut-être tout seul, hein, je ne sais pas. Parce qu'il y a il y a eu des films comme ça où Jésus revient et les gens se disent, tiens, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas compris. Eh ben, c'est dit dans la Bible, dans Apocalypse 1, verset 7, Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Donc, quand Jésus va revenir, ce sera glorieux, ce sera incroyable, tout le monde va le voir. La nature du jugement dernier. Donc là, je vais passer un petit peu rapidement, mais c'est Jésus qui va être le juge. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle pour ceux qui le suivent. Jésus va être le juge. Christ va juger les vivants et les morts de par l'autorité qu'il a de son Père. Les incroyants seront jugés. Je vous ai dit dans Romains 2, il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, cherchent la gloire à venir, l'honneur et l'immortalité recevront de lui la vie éternelle. Mais ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice, Dieu leur réserve sa fureur. Tous les péchés cachés seront découverts. Tout ce qui était dit dans le secret sera révélé. Nos péchés aussi. Les croyants seront jugés aussi. C'est dit dans 2 Corinthiens 5, « Car nous avons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon ses actes, bon ou mauvais, qu'il aura accompli par son corps. » Donc chacun va rendre des comptes pour lui-même. On ne va pas rendre des comptes pour nos parents qui étaient croyants. « Tiens, mon papa, il était pasteur, ma maman, elle priait, c'était incroyable. » Non, non, on va pas. Chacun va rendre des comptes pour soi. Et quand Jésus meurt à la croix, il prend le jugement qu'on méritait. La colère de Dieu se manifeste dans le châtiment éternel et Jésus subit cette colère à notre place. Mais il dit aussi, il offre réellement le pardon des péchés et la vie éternelle. Je le redis, il offre réellement le pardon des péchés et la vie éternelle. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé par la mort, de la mort à la vie. Ceux qui suivent Dieu de tout leur cœur n'ont rien à craindre. Et c'est là où je veux vraiment enlever la culpabilité, le poids de ça. Prendre pleinement conscience du péché, mais se dire, si je suis sous les ailes de la protection de Dieu, je n'ai rien à craindre. Spurgeon dit dans une citation, « Il a décidé de m'attirer à lui et écrit mon nom sur son livre. Il ne l'effacera pas. » Et depuis, quelle triste pensée. Combien de fois, vous et moi, ne nous sommes pas éloignés du Seigneur. Je serais entré et sorti de l'Alliance des centaines de fois par jour si Dieu m'avait rejeté à chacun de mes péchés et repris à chaque repentir. Heureusement, malgré mon péché, mon incrédulité, mes retours en arrière et mon indifférence à son égard, sa résolution est arrêtée. Et nous errerons encore et trébucherons souvent dans les sombres heures, mais son amour ne change pas. Il y aura des récompenses aussi au moment du jugement dernier, pour ceux qui ont été de bons serviteurs. Je ne vais pas développer ici, il y aura des degrés de récompense, mais on dit aussi que la joie de chacun sera parfaite. On dit aussi que les anges seront jugés. Les anges déchus seront jugés, les démons seront jetés dans les temps de feu. Ça, il n'y a pas beaucoup de détails sur est-ce que les anges qui ont suivi Dieu seront jugés. Donc je vous laisse chercher. Et enfin, nous on participera au jugement dans une certaine mesure, mais enfin, la justice parfaite de Dieu sera là. Enfin la justice parfaite de Dieu. Enfin ce monde qui nous attriste, qui nous brise, qui nous rend triste. Enfin, waouh! Plus de mal, plus de souffrance, plus d'injustice. Le jugement devient alors une bonne nouvelle pour ceux qui sont en Christ. L'enfer, le jugement dernier, c'est pesant, c'est très lourd. Mais c'est normal que ce soit pesant et lourd parce que c'est grave. Ce que Jésus apporte à la croix et amène à la fin, c'est incroyable, c'est glorieux, c'est magnifique. Aujourd'hui, la doctrine du jugement dernier, ce dont on vient de parler, répond à notre besoin de justice. Celui qui agit mal recevra quant à lui le salaire qu'il mérite des mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Ça nous permet de pardonner aux autres aussi. On voit que Dieu, c'est un Dieu d'amour, il pardonne. On est appelé à être les exemples de Christ. Nous, aujourd'hui, comment est-ce qu'on pardonne aux autres? Dieu, il arrive à pardonner, à porter le poids du péché. On n'est pas Dieu. Mais est-ce que nous, on pardonne aussi quand les autres font des erreurs? C'est aussi un appel à ne pas se faire justice soi-même. Alors ça ne veut pas dire être inactif, mais ça veut dire ne pas être dans la vengeance. Dieu, à la fin, il va faire justice. Et c'est une bonne chose. On n'a pas à faire notre propre justice. Dieu, il sait ce qu'il fait. Et à la fin, bah, ça va castagner pour ceux qui n'ont pas suivi Dieu. Ça va être extrêmement triste pour eux. Mais ceux qui ont suivi Dieu, ils seront restaurés dans la relation avec lui. Ça va être incroyable. Dieu, il nous encourage à vivre selon sa justice. Et il y a des récompenses pour les bons serviteurs qui seront données. Et enfin, ça nous pousse à l'évangélisation. Ça nous presse de nous dire, nous, aujourd'hui, ceux qui ont rencontré Jésus, on a accès à ça. On se rend compte de la gravité de notre péché, on se rend compte de l'incroyable grâce. Mais mon voisin, peut-être mes enfants, peut-être mon conjoint, peut-être mes collègues de travail, et eux, on leur a parlé de Jésus ? Ah, c'est pas un poids que je mets, c'est de dire on a une bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle. Et c'est quand on voit Célia qui dit son témoignage, bon, elle ne peut pas s'arrêter de parler de Jésus, c'est incroyable. Et c'est pas on va parler de Jésus pour faire peur, pour manipuler, c'est on va dire regardez, il y a un truc incroyable qui se passe. Donc je vais conclure ce message en disant. La question de l'enfer, le jugement dernier, est-ce que Dieu n'y est pas allé un peu fort pour écrire son histoire ? Notre histoire, on peut apporter les éléments suivants. Le mal, ce n'est pas le sujet de l'histoire. Le jugement, ce n'est pas le sujet de l'histoire. Même l'enfer n'est pas le sujet de l'histoire, c'est Jésus le sujet de l'histoire. L'histoire magnifique que Dieu a créée ne commence pas par la condamnation, mais elle commence dès le début par l'amour. Il s'agit d'une histoire à prendre au sérieux, parce que c'est notre histoire et c'est une question de vie ou de mort. Dieu, il ne désire pas perdre l'homme, il veut le sauver. Et c'est parce qu'il est infiniment saint que le jugement existe, c'est parce qu'il est infiniment miséricordieux que la croix existe. L'enfer, c'est une doctrine biblique dont Jésus parle avec sérieux parce qu'il aime les hommes. Jésus parle autant de l'enfer parce qu'il connaît la réalité du jugement et veut nous avertir. Il avertit pourquoi ? Parce qu'il veut sauver. S'il en parle autant, ce n'est pas par plaisir de faire peur. C'est parce qu'il veut sauver. Chaque avertissement est une invitation à revenir vers Dieu. Il rappelle simplement que Dieu est le juge ultime et que la destinée éternelle est plus importante que la vie présente. Notre message n'est donc ni la peur ni la condamnation. Notre message, c'est celui que Jésus lui-même a proclamé. C'est dit dans Marc 1, verset 15. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et c'est parce qu'il revient bientôt que chacun est appelé aujourd'hui à se repentir et à croire à cette bonne nouvelle. La nouvelle est celle-ci, Dieu aime les pécheurs. Christ est mort pour eux, le salut est offert gratuitement par grâce. Quiconque vient à lui avec foi trouve le pardon, la vie éternelle, la joie d'être réconcilié avec son Créateur. Et aujourd'hui, j'ai peut-être un appel pour conclure ce message. Si ton cœur te presse à la soif de justice ce matin, bah Dieu il peut répondre à ça. S'il y a des choses qui te... ça m'agace ça. C'est tellement injuste. Approche-toi du Dieu de justice. Si ton cœur est lourd de la noirceur de tes fautes, du poids de ton péché, des choses horribles que tu as pu vivre, que tu peux réaliser, que tu peux faire, ce qu'il y a dans ton cœur, approche-toi de ce Dieu d'amour et dépose ton fardeau. Viens à la rencontre de ce Dieu incroyable de justice et d'amour. Il ne rejette pas celui qui vient à lui, peu importe sa noirceur, peu importe ses difficultés, peu importe ses rechutes, peu importe ses doutes. Ce n'est pas un Dieu qui rejette, c'est un Dieu qui tend la main. Et enfin, avertissons de la terrible nouvelle de l'enfer et de la justice de Dieu, ceux qui ne le connaissent pas encore, et apportons la bonne nouvelle de Jésus. C'est un encouragement. Apportons la bonne nouvelle de Jésus. C'est vraiment une question de vie ou de mort, mais c'est une bonne nouvelle. Moi, j'aime beaucoup le fait que ce soit une bonne nouvelle. On ne va pas annoncer la dernière nouvelle, le dernier potin. On annonce une bonne nouvelle qui parle de la vie éternelle. Et là, encore une fois, et je veux le redire, ce n'est pas de la culpabilité, ça doit déborder d'une joie, d'une envie de parler de Jésus. Et je pense que peut-être on peut prendre quelques minutes, si c'est encore bon, je vois que j'ai débordé un peu, mais de demander à Dieu de nous révéler notre péché, de grandir dans la compréhension de la grâce de Dieu et de déborder de la joie, de la compréhension de ce qui va se passer à la fin. Il va venir de façon glorieuse et de vouloir vraiment envie de partager ça aux autres qui nous entourent. Voilà, j'espère que je vous ai encouragé ce matin. Et peut-être on peut prendre quelques minutes pour peut-être en silence ceux qui veulent prier devant Dieu aussi pour que Dieu nous parle et nous touche aussi par rapport à ça.